La prédication est toujours une parole à plusieurs voix. Ce culte consacré à l'Église persécutée m'offre l'occasion tout simplement de le rappeler. De le rappeler d'autant plus que ce matin, je vais être d'une certaine façon le porte-voix de l'équipe de Portes Ouvertes qui a préparé ce culte et qui nous a proposé un thème et quelques références. La prédication est toujours une parole à plusieurs voix, parce qu'elle est d'abord l'écoute d'une parole qui nous précède, qui nous fonde, qui nous tient, qui nous engage. La parole des prophètes et des apôtres, qui est les paroles de Dieu pour nos vies, parole normative, parole normante de nos vies. Elle est aussi parole rendue vivante par le témoignage de l'Esprit-Saint qui continue, et nous l'avons entendu, et je remercie vraiment toute l'équipe qui nous a déjà conduits si bien, si richement, dans cette conviction, à travers cette conviction, que le Christ est la source d'eau vive, et que celui ou celle qui vient, qui croit, qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, et mieux encore, deviendra source jaillissante jusque dans la vie éternelle. La parole de la prédication est donc une parole aussi portée et animée, actualisée par le ministère de l'Esprit-Saint. Et enfin, elle est quand même une parole incarnée, dans cette double nature d'être à la fois parole de Dieu et parole humaine, dans ce sens que Dieu s'est servi des hommes et même des femmes aussi, parce qu'on ne le dit pas toujours, on s'arrête aux hommes, des hommes et des femmes. Quand nous lisons la Bible, pour celles et ceux qui n'aimeraient peut-être pas que les femmes prennent la parole très fortement du haut d'une chaire, eh bien, quand vous lisez la Bible, vous allez rencontrer le livre d'Esther, vous allez rencontrer le livre de Ruth, etc. Vous lisez la parole de Dieu à travers la bouche de ces femmes aussi. Donc, c'est une parole incarnée. Et qui dit parole incarnée, dit parole située dans une culture, dans un lieu, dans un espace. Qui dit parole aussi située dans une anthropologie, à travers des hommes, des femmes, donnés, en un lieu donné. Et c'est comme ça d'ailleurs, et ça ne peut pas être autrement, que cette parole nous est parvenue. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous l'écoutez, que vous la recevez, que vous la lisez, que vous la vivez, avec qui vous êtes, et avec vos lunettes, et avec votre culture, et avec les circonstances de vos vies. Ce qui implique nécessairement donc un travail de discernement, pour ne pas surimprimer sur la parole de Dieu les prismes de nos vies, les lieux de notre humanité, pas encore totalement sanctifiés. Mais il a plu au Seigneur de croire que sa parole pouvait nous rejoindre, et que même le témoignage de celles et ceux que nous ne connaissons pas, les chrétiens de l'Église persécutée, peut être utilisé aujourd'hui pour nous encourager et nous bénir. Le thème de ce dimanche de l'Église persécutée, c'est « Rien ne nous séparera ». Et il est inspiré de l'épître de Paul aux Romains. Alors je vais le prendre comme point de départ, mais vous allez voir qu'il va nous conduire dans notre livre des Actes des Apôtres. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? C'est Romains chapitre 8, les versets 35 à 39. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle promesse et quelle espérance! Eh bien, l'Église persécutée par sa résilience, les chrétiens persécutés par leur endurance, par le fait même qu'ils existent et continuent de proclamer l'évangile de Jésus-Christ et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, bien aimé, c'est une preuve de la puissance de Dieu et de l'amour de ce Dieu fidèle qui tient ses promesses. De la bouche des persécutés, il nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette prédication est structurée autour de quatre parties. La première partie, nous allons le voir, c'est la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. S'il y a trois idées à retenir ici, c'est que la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Alors cette souffrance peut se manifester de diverses manières, par des intimidations, par des menaces, par des injustices, par des discriminations, par des humiliations, etc. Mais depuis le commencement, l'Église doit faire face à l'opposition, à l'hostilité de notre monde. Et cette violence et cette persécution n'est pas un fait accidentel. Jésus lui-même nous en donne une clé de compréhension. En fait, on ne peut pas la contourner véritablement. Si certains chrétiens s'imaginent qu'ils pourraient être totalement chrétiens et contourner la difficulté de l'assumer, eh bien, en fait, c'est comme si vous voulez contourner la croix. Entendons bien ensemble ce que Jésus nous dit. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Si jamais vous ne vous êtes senti d'une quelconque façon dans une sorte d'étrangeté quand vous avez dit que vous êtes chrétien, c'est une bénédiction. Mais avant de la considérer comme telle, demandez-vous si vraiment vous avez annoncé la couleur. Parce que certains la diluent tellement qu'ils sont compatibles à tout milieu. Il y a une telle porosité aujourd'hui qu'on ne sait plus distinguer le blé de l'ivraie. Mais bon, si ce qui compte pour toi, mon frère, ma sœur, c'est d'éviter à tout prix la discrimination en tant que chrétien, eh bien, je t'invite, comme moi, à te mettre à l'écoute de ce texte. Vous n'êtes pas du monde. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des liens avec des amis dans le monde. Ça ne veut pas dire que nous devons rester enfermés dans nos églises. Vous savez que je ne prêche pas ça. Mais nous, notre identité, notre appartenance, nous n'appartenons pas au monde. Le monde, c'est-à-dire, c'est ce système humain qui se construit en rejetant Dieu. Nous n'appartenons pas à cela. Le monde, ce n'est pas simplement dire les associations. Non, nous devons nous impliquer dans ce monde que Dieu aime. Mais nous n'appartenons pas au monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, dit le Christ, ils vous persécuteront vous aussi. Il disait ça aux premiers disciples, à ceux qui allaient être ses apôtres. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Les apôtres étaient préparés à rencontrer sur leur chemin le rejet, l'humiliation, l'injustice. Non pas parce qu'ils se comportaient mal, mais simplement parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont associé leur liberté et leur vie au bon nom de Jésus-Christ. Portes ouvertes nous partage le témoignage de Jérôme. Bien sûr, les noms sont toujours changés pour la sécurité de ces personnes. Jérôme, je ne le connais pas, mais voilà son visage. Il vit en République démocratique du Congo, dans un camp de personnes déplacées dans une région qui s'appelle Oicha. C'est une ville dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par des forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Jérôme dit « J'ai fui parce que les membres de l'ADF avaient tué mon fils. » Imaginez sa souffrance. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé et de nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé, nous n'avons plus rien. Oui, Jérôme est traité injustement comme son seigneur l'a été. Jérôme a été réduit à l'insignifiance. Quelle tristesse pour un père de ne pas pouvoir défendre son fils et de fuir. Le livre des Actes des Apôtres que nous parcourons ne passe pas sous silence les souffrances des premiers disciples. Les apôtres sont intimidés. On leur dit surtout ne prêchez plus au nom de Jésus dès le chapitre 5. Ils sont menacés. On leur dit si vous continuez, on va augmenter la pression. On va resserrer les taux. Vous serez enclus, mais nous on sera marteux et on va frapper. Ils sont arrêtés, ils sont jetés en prison. Et ils sont frappés. N'avons-nous pas chacun d'entre nous déjà expérimenté de graves épreuves? Nous nous imaginions peut-être que devenant chrétien, comme on chantait autrefois, tu sais, tout ira bien. Au début, on se le dit très fort, on y croit. Puis on se rend compte en fait que ce n'est pas tout qui ira bien. Oui, nous avons la paix. Oui, nous avons la joie du pardon. Mais tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, même avec le Christ dans notre cœur. Mais amen, tout ira bien un jour de manière parfaite. Il n'y aura plus cette désarticulation entre l'œuvre de Dieu parfaite, d'ores et déjà accomplie en Jésus-Christ, et ce que nous vivrons. La souffrance peut conduire un certain nombre de chrétiens à la mort. Elle a conduit tant d'autres au fil des années, dès le premier siècle, au doute et même parfois à se dédire de sa foi. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte au verset 1 et 4 qu'à cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, c'est nous qui soulignons en couleur ici. Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, c'est-à-dire à ceux qui défendaient la religion du judaïsme légaliste, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. C'était quelques jours avant la fête de Pâques. Hérode le fit saisir et jeter en prison. Et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Vous êtes bon en mathématiques? 4 groupes de 4 soldats, ça fait combien de personnes pour un bonhomme? 16. Moi, j'ai lu des commentaires historiques où d'habitude on disait que 4 personnes suffisaient à garder un bonhomme. Mais là, on comprend que Hérode ne veut surtout pas que Pierre lui échappe. Alors, régime d'exception pour lui. Ça sera 4 fois 4. Un 4-4, hein, il va passer dessus aussi. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. La deuxième partie de ce message, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. On va voir ces 3 points. Mais d'abord, avant, Jean revient ici sur le thème de la persécution. Ceux qui lisent avec nous le livre des Actes des Apôtres savent que Luc, autant pour moi, nous a déjà dit depuis le chapitre 5 que les apôtres étaient menacés, frappés, jetés en prison une première fois. Libéré par un ange, donc par l'intervention miraculeuse du Seigneur. Et puis la pression va aller en augmentant. Au chapitre 7, c'est le premier martyr, Étienne. Et puis au chapitre 9, Luc va nous dire qu'il y a une période d'accalmie un peu, une paix relative. Mais là, c'est reparti de plus belle et on va avoir le martyr du premier apôtre. Étienne, c'était un disciple, un diacre. Mais là, pour la première fois, Hérode Agrippa Ier, digne petit-fils de Hérode le Terrible, hein, Hérode le Grand, qui avait déjà mis un plan de liquidation de tous les enfants qui étaient nés à l'époque du Seigneur Jésus. C'était son grand-père, donc un digne héritier de son grand-père, rempli de ruses. Il ne met pas en place une persécution systématique, mais il décide de commencer par couper les têtes. Il veut affaiblir l'Église en supprimant ses responsables. Jacques est l'un des trois apôtres qui faisait partie de ce trio que Jésus aimait emmener avec lui un peu plus loin dans la relation et dans la formation. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Et voilà que Hérode, Agrippa Ier, l'a exécuté. La persécution l'a amené à la mort. Nous avons un témoignage de Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, qui lui-même tient cette tradition autour de la mort de Jacques, d'un historien ecclésiastique qu'on appelle Eusèbe de Césarée, pour ceux qui veulent chercher un peu des informations autour. Et il y a cette tradition, dont on ne sait pas si elle est fondée, qui dit ceci autour de la mort de Jacques. L'un de ceux qui avait dénoncé Jacques, touché de la fermeté avec laquelle il confessait sa foi, malgré l'épreuve, se déclara chrétien. Et l'un de ceux qu'il avait dénoncé se déclara aussi chrétien, touché par la fermeté de Jacques. Tous deux furent donc amenés au supplice. En chemin, cet autre pria Jacques de lui pardonner. Ça, c'est un bon signe, ça, qu'effectivement on est devenu chrétien. Le Saint-Esprit commence à nous parler du pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui-ci, après un instant de réflexion, oui, même Jacques a besoin de prendre du temps. Ce n'est pas facile, le pardon. Ce n'est pas comme ça, hein. Ça peut prendre du temps. Il a fait un chemin, là. Bon, le temps a été accéléré par l'imminence de la mort. Mais il a dû, Jacques, non pas un pardon à bon marché, non pas un pardon qui ne comprend pas, non pas un pardon pour soulager la conscience, ce serait un pardon à bon marché. Mais le pardon qui accueille aussi la justice, la reconnaissance qu'il y a eu une faute objective. Alors c'est pour ça que Jacques a pris le temps de réfléchir. Celui-ci, après un instant de réflexion, dit « Que la paix soit avec toi ». Et j'aimerais dire aussi ça ce matin, « Que la paix soit avec toi ». Quoi que tu aies pensé, quoi que tu aies dit, « Que la paix soit avec toi ». Je suis en paix avec Jésus. Et il lui donna le baiser fraternel. Ainsi, tous deux moururent ensemble. Tous deux moururent ensemble. Jacques, l'un des premiers apôtres, une colonne, nous dit le texte, dans l'église de Jérusalem, a perdu sa vie physique, mais en fait, il avait déjà gagné sa vie depuis longtemps, en acceptant Jésus-Christ dans son cœur. Il est entré non pas dans une autre vie, mais dans la même vie que lui a donnée son Seigneur. Il y a un mystère pour ceux qui vivent ces moments-là. Et l'Écriture nous l'a révélé d'une certaine manière avec ce que Étienne a vécu. Alors qu'on tuait Étienne, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit « Je vois Jésus debout ». Waouh ! Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté à Jésus. Et pourquoi ? Parce que Dieu nous accorde la victoire dans l'épreuve. Quand vous relirez le chapitre 12, vous verrez que le chapitre 12 met en lumière. Luc a tellement raconté ça avec les détails qu'il veut nous faire voir un combat spirituel. Et la Bible nous le dit aussi de la bouche des apôtres. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui retiennent captive la vérité. Et avec la captivité de la vérité, qui est le Christ, retient des hommes, des femmes captifs dans la désobéissance. Frères et sœurs, je vous en conjure, souvenez-vous-en.
Et même dans des désaccords entre chrétiens, nous ne luttons pas les uns contre les autres. Nous ne sommes pas adversaires ni ennemis. Mais il peut y avoir un esprit de séparation, de zizanie, de déchirure de l'unité qui agite, qui cristallise et qui divise l'Église. Et ceci, nous savons que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, lui qui unit et nourrit le lien vital que nous avons en Christ et les uns aux autres. Jésus est présent dans ce combat et il est témoin. Aussi, nous pouvons voir Hérode, c'est son camp. Hérode avec sa majesté, Hérode avec son pouvoir politique, Hérode avec ses gardes à son service, Hérode avec sa stratégie, il attend la fête de Pâques qui passe. Et alors il va faire de Pierre un feu d'artifice. Il en aura fini avec les deux grandes figures apostoliques que nous voyons dans la première partie du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 12, avant que Paul n'aille vraiment en mission avec Barnabas. Le Seigneur laisse parfois faire. Et le texte biblique que nous avons lu nous dit que nous sommes déjà la veille pour le lendemain. Hérode a prévu le lendemain de passer à l'acte, juste après la fête de Pâques. Il ne pouvait pas le faire pendant la fête de Pâques. Il a attendu. Mais le Seigneur, lui aussi, était au combat. Et vous savez comment il était au combat? Vous savez comment il était au combat? Pardon? Oui, mais où est-ce que le Seigneur était au combat? Où est-ce qu'on le voit au combat là dans ce texte-là? Ah, il était au combat dans l'église. Ça m'a percuté hier quand je relisais et que je poursuivais la rédaction encore de mon message. L'église priait. Et le texte utilise un adverbe « ardemment ». Et je suis allé regarder cet adverbe parce que mon commentaire biblique m'a dit « c'est le même verbe, le même adverbe qui a été utilisé pour Jésus à Gethsémani. » Waouh ! L'Esprit du Christ agonisait à travers l'Église priante. Comme il agonisait à Gethsémani au jardin, à l'heure de gloire du dernier combat, et qu'il disait « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ta volonté et non la mienne. » Et le texte nous dit que l'angoisse l'avait saisi au point où sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. On dit qu'il se faisait un sang d'encre dans l'expression française. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il s'est fait un sang d'encre pour moi, Jésus. Pour moi et pour chacun de nous. À Gethsémane, c'était pour l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a fait cette promesse d'être toujours avec nous. Je bâtirai mon Église. Mon Église, dit Jésus. Et seul lui peut utiliser ce « mon » au sens possessif fort. Nous ne pouvons que dire de manière très humaine « c'est mon Église locale ». Mais attention, on ne peut jamais le dire au sens de la possession. Quelle que soit ta place dans l'Église, ce n'est pas ton Église au sens de la possession. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit « je bâtirai mon Église ». Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle restera sur un nuage douillet? Non. Et il a dit « et les portes du séjour des morts ». Donc pendant que Jésus pense à l'Église, pendant qu'il pense comment il va la bâtir, il sait déjà que celle-ci doit faire face à un combat spirituel. Et ce combat spirituel sera un combat à la vie ou à la mort. Mais Jésus a donné une parole qui ne peut échouer. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elles. Mon frère, ma sœur, tu es dans l'Église, tu es membre de l'Église du Christ. Peut-être que tu luttes avec une pensée de mort en ce moment. Peut-être que tu as des pensées noires. Peut-être que tu traverses un moment très difficile où tu ne vois plus la vie. Jésus a prié cette promesse pour toi et Jésus veille à l'accomplir. Il va te bâtir, il va continuer de le faire et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur toi. Reçois cette parole de vie. Sois fortifié en elle et par elle. Jésus t'accompagne dans ton combat, à toi aussi. De même qu'il accompagne aujourd'hui l'Église persécutée. Et parce que Jésus était au milieu de son Église, et parce que Jésus est à côté de celui qui souffre, eh bien, il a envoyé un personnage qu'on connaît bien dans la Bible, l'ange du Seigneur. Il avait fait au chapitre 5, et il le fait ici au chapitre 12, qui est venu libérer Pierre au nez et à la barbe des 16 soldats. Allez lire la suite, c'est rempli d'humour. Vous n'avez pas encore verrouillé, vous n'avez pas encore surveillé. Jésus est au milieu de son peuple. Ce n'est pas seulement comme on voit dans Daniel, dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Et il nous libère. Et quand l'Église prie, parfois elle ne croit même pas qu'elle sera prise au mot. Pierre se présente devant la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc, qui a écrit l'évangile du même nom, pensons-nous. Jean-Marc, Marie doit être la sœur de Barnabé, Barnabas, puisqu'il est, Jean-Marc est le neveu de Barnabas. L'ange conduit Pierre devant cette porte. Il est libéré, mais Pierre pensait qu'il faisait un songe. Pierre pensait qu'il rêvait juste. Quand le Seigneur amena les captifs de Babylone, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et Pierre était un peu comme ça. Il pensait qu'il était dans un rêve. Mais c'était la réalité. Dieu l'avait libéré au nez et à la barbe des gardes. Et il l'a conduit. Et là, devant la maison, c'est qui ? Ouf, c'est Pierre. Elle a oublié de lui ouvrir la porte. Pourtant, c'est pour ça qu'elle priait. Et elle est retournée dire aux autres, c'est Pierre, devant la porte. Et les autres ont dit, ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être Pierre. C'est son fantôme. C'est son fantôme. Église de Jésus-Christ, est-ce que tu sais que tu peux être prise au mot par le Seigneur ? Combien de fois les églises ont prié et quand le Seigneur bénit, on dit non, ça ne peut pas être le Seigneur parce que la bénédiction ne ressemble pas à ce qu'on avait envisagé. Ou bien parce que ce n'est pas dans le moment ou dans l'agenda tel qu'on l'avait pensé. Combien d'églises ont manqué le moment où Dieu leur a donné et a ajouté les uns et les autres pour la vitaliser. Combien d'églises ont prié pour grandir, pour avoir la croissance et tout d'un coup ils ont reçu des gens qui sont arrivés, qui ont déménagé ou qui se sont convertis ailleurs. Puis ils ont dit non, ici chez nous le principe c'est qu'il faut 2 ans hein, avant d'être intégré. Nous prions pour que sa vie jaillisse en abondance. Et je crois profondément à ce qui a été dit en première partie. Nous prions pour un débordement de la vie de Dieu qui ne signifie pas désordre. Mais je m'attends, je prie pour le voir à un débordement aussi de nos cadres. Parce que jamais les cadres ne sont là pour empêcher la vie, mais ils sont comme le treillis, ils sont là pour soutenir la vigne. Et plus la vigne grandit, plus on doit mettre des structures pour l'accompagner. Mais on ne met pas les structures comme on est en train de le faire parce qu'ils produisent la vie. Mais nous sommes en train de structurer à nouveau l'Église et à chaque moment de notre Église, il y a eu besoin de mettre des structures. Et nous le faisons avec la pensée qu'elle soutient, qu'elle étaye la vie du Christ au milieu de nous. Frères et sœurs, je voudrais vite aller à la troisième partie. Non, ça c'est une carte que vous regardez, juste ce que vous retenez, c'est ce qui est écrit en bas. Rien n'arrêtera la mission de l'Église. J'ai dit à quelqu'un que si vous imaginez que Dieu s'arrête d'agir parce que vous êtes incrédule, alors ce qui est grave, c'est que vous croyez que vous êtes tout-puissant. Parce que si vraiment vous croyez que Dieu n'agit pas parce que votre foi n'est pas assez grande ou parce que même vous n'y croyez pas, c'est que vous êtes en train de dire que vous avez trouvé un truc qui peut bloquer l'intervention de Dieu. C'est tout le contraire que je vois dans la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et il agit. Vous croyez qu'il s'est arrêté parce que Pharaon ne croyait pas en lui ? Au contraire, il a agi. Vous croyez que Jésus s'est arrêté parce que Thomas a dit qu'il est incrédule ? Vous croyez que ça a arrêté Jésus de se révéler à lui ? Jésus a agi. Vous croyez que si Dieu ne guérit pas quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas eu la foi ? ou c'est parce que ceux qui ont prié pour eux n'ont pas eu la foi? Vous croyez que ça arrête Dieu? Si vous avez cette théologie, alors je peux vous dire qu'on doit relire la Bible ensemble. Ça n'arrête pas la main de Dieu. En fait, c'est vous qui avez besoin de vous prouver que vous avez la foi. Mais Dieu n'en a que faire. Il agit avec ou sans vous, avec ou sans moi. Et rien ne peut arrêter la mission de l'Église. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord la mission de l'Église, mais c'est la mission de Dieu. C'est ce qu'on appelle la missio Dei. C'est Dieu le premier missionnaire. C'est Dieu qui est en mission. Relisez les chapitres 12, 13 et 14 du livre des Actes des Apôtres. On n'a pas le temps ici de le faire. Et vous verrez qu'ils sont repartis à Lystre, à Iconium, à Derbe, à Antioche. Premier voyage missionnaire. Et qu'ils y ont eu énormément de succès au-delà des oppositions. L'Église ne peut pas être arrêtée. Dernier point pour conclure. On a commencé avec cette promesse. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. On peut le comprendre de deux manières. Jésus, tu nous tiens par la main, comme ma sœur Anne l'aura partagé, le psaume 18, ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour encourager peut-être quelqu'un qui serait en train de dire « je vais lâcher » ou bien « je ne sens plus qu'il me tient la main ». Non, Jésus nous tient la main. Il nous dit « je vous tiens dans ma main et rien ne vous arrachera de ma main ». Première manière de le comprendre. Et deuxième manière aussi de le comprendre, qui découle, les deux ne sont pas opposés, c'est que rien ne séparera ce que Jésus-Christ a uni comme frères et sœurs. Vous pouvez changer d'église locale, vous pouvez aller venir, mais rien ne séparera. Parce que où qu'on aille, pour toujours et pour sa gloire, il a fait de nous des frères et sœurs et des membres de son corps. Les champs nous sépareront peut-être, les théologies du surnaturel peut-être, bien d'autres choses peut-être, mais entendez bien ceci, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et donc, rien ne doit nous séparer du souci que nous devons garder vif à l'esprit et dans nos cœurs de celles et ceux qui souffrent à cause de Jésus-Christ. Venez, à la fin c'est ça, toute chose sera manifestée. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, voilà ce que j'aimerais entendre un jour de la bouche de mon Seigneur. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ou par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, avant que je vienne sur cette terre. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Nous n'aimons pas seulement l'Église persécutée en parole. Nous n'aimons pas seulement les chrétiens en parole. Nous n'aimons pas seulement les membres de notre famille en parole. C'est bientôt Noël. Vous allez faire la démonstration que ce n'est pas juste en parole. Mais nous les aimons aussi, selon la parole de Dieu, en parole et en acte. Je prie que le Seigneur nous donne, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, de manifester en acte d'amour concret notre solidarité pour l'Église persécutée. Voici comment vous pouvez le faire, et je rappelle ce que Vincent et ce que Jean nous ont déjà dit. Vous pouvez le faire en soutenant la pétition qui est là sur la table du stand pour une Afrique unie contre la violence. Et de par où je viens, vous vous rendez bien compte que tout ceci me bouleverse profondément, émotionnellement. Vous pouvez offrir la possibilité à ces chrétiens d'avoir la parole de Dieu par un don de 10 euros. Vous pouvez décider d'aller plus loin, 60, 100 euros. Pas pour notre assemblée chrétienne, mais pour la mission Portes Ouvertes qui fait un travail formidable depuis tant d'années. Donc vous pouvez signer la pétition, je l'ai dit. Et puis vous pouvez aussi faire un acte qui est gratuit en vous abonnant à la lettre de nouvelles de Portes Ouvertes. Vous recevrez les nouvelles pour prier. Je vous remercie. d'avoir pris le temps ce matin de prier pour l'Église persécutée. Amen.